Bonsoir.
Salut.
Ouais, y a du monde cette fois.
Oh bah, du monde.
Du côté d'Imaginaire.
Du beau monde.
Et oui, on retrouve Patrice. Ça faisait longtemps.
Et ce soir, je ne parlerai pas prof Patrice. J'aurais pu vous parler d'Elon Musk et de son gros lanceur ou de la comète que tout le monde peut voir en ce moment si vous n'êtes pas dans une ville. Mais non, c'est pas ça qu'on va parler ce soir. C'est de Dune. Donc de la science-fiction pure
Dune
et dure.
Dune 2, ça s'appelle Dune 2.
Bah non, mais Dune 2, ça veut rien dire.
Ah bon. Dune deuxième
partie du film tiré
en deux parties.
Dune 2 étoiles.
Ouais, voilà, oui.
Et Romuald, la même.
Et bah pareil, moi je viens pour parler de Dune, effectivement, avec Patrice. Ça fait plaisir de le revoir à la radio.
Tout à fait, et de l'entendre. Salut Karine.
Oui, je vais vous parler de l'AGF et des tableaux.
C'est quoi l'AGF?
L'AGF, c'est l'Angers Geek Fest.
Bon, ça tombe bien.
Le 6 et 7 avril, venir.
On a des places à vous faire gagner en plus, pour que vous veniez. Deux places à gagner dans cette émission, ce sera tout à l'heure. Ce sera un genre de petit blind test.
Et comment on fait pour contacter Radio G?
Eh ben, je pense qu'on les fera gagner sur le chat. Vous allez sur radio-g.fr et là, vous tombez sur le chat. Bon, sinon, on peut toujours redonner le numéro de téléphone, mais il écrit derrière moi, donc c'est pas très pratique.
En petit, parce que je ne le vois pas.
Ah voilà, en tout petit. Alors, on commence en musique. Alors, comment on va parler de Dune dans cette émission? Et en plus, l'Angers Geek Fest cette année, le thème c'est les années 90. Donc je vous ai trouvé un morceau qui est sorti en 1990 d'un groupe français qui s'appelait Arakin. C'est quoi Arakin? Est-ce que c'est un lien avec Dune? J'espère,
ah oui.
J'y connais rien.
Oui, c'est la capitale d'Arakis.
Arakis qui est l'autre nom de Dune.
Ok, on s'écoute ça. Donc Arakin, le groupe avec le morceau Lantaluve dans Imaginaire sur le 101.5.
Les secrets terribles et les mages de l'Ouest ont disparu.
C'était donc un Rakim dans Imaginaire sur le 100.5, un extrait de leur premier album en 1990, il y en a deux. Et ils avaient leur logo, c'était un petit personnage qui était tiré de la quête de l'oiseau du temps. Je me rappelle plus comment on l'appelait, le fourreux, quelque chose comme
le
ça.
Le fourreux.
C'est ça, ouais.
Oui, le fourreux.
Qu'on trouve qui est toujours sur l'épaule, sur l'épaule de Pélis. Voilà, ça fait tellement longtemps.
Bon, toi, oui, parce que
c'est ça. Je sais pas comment ils avaient un deal peut-être avec Loisel. Bon, j'ai complètement oublié d'annoncer avant qu'on parle de Dune que dans cette émission on allait aussi diffuser l'interview de Floriane Soulas.
Oui, à propos de son roman, donc Tonnerre après les ruines aux éditions Argile.
Qu'elle était venue défendre aux Utopiales dernières, et c'est là qu'on l'avait enregistré. Et puis donc, on parlera de l'Angers Geek Fest tout à l'heure, et on vous fera gagner deux places. Mais en attendant, donc, on revient sur le nouveau blockbuster de Denis Villeneuve.
Et oui, Dune 2, donc, qui est sorti très très récemment. Personnellement, moi je l'ai vu que dimanche dernier. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir vu. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'ont vu. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on nous on en a pensé en fait. Alors déjà, moi je peux dire, commencer à dire que c'était un très bon film. J'ai trouvé fidèle à l'œuvre de manière globale. Et je dirais qu'il y a deux parties. Il y a la première partie qui est assez réussie, qui est assez surprenante, alors pas dans l'histoire, mais dans la représentation qui fait une lecture du livre que je trouve excellente. Et puis une deuxième partie que je trouve un peu plus faible. Alors bon, on va peut-être en rentrer dans les détails, mais parce que je trouve ça un peu vite. Et puis les enjeux sont peut-être pas si bien présentés que ça.
Bah, en fait, pour moi, d'abord c'est un film et c'est un film esthétique. C'est vraiment, c'est comme une œuvre d'art, quoi. Tu te poses pas la question, quand on a fait un tableau, est-ce qu'il a été fait à partir de l'idée d'un livre, etc. C'est une œuvre d'art, pour moi c'est esthétique. Évidemment, les acteurs transpirent pas, ça c'est un petit problème quand on a lu le bouquin. La chaleur est immense, les acteurs transpirent pas, il y a beau avoir le distil, etc. On sent pas vraiment tout le recyclage, toute l'histoire du fluide, etc. et tout.
Il y a une seule scène dans une tente où on le comprend, et d'ailleurs c'est très esthétisant, effectivement.
Ah bah, c'est esthétique, ouais. et pour moi, là, sur cette deuxième partie, parce qu'on dit Dune 2, mais c'est pas Dune 2, quoi. C'est un roman, c'est le roman de Frank Herbert Dune, qui était déjà d'ailleurs tronçonné en deux parties dans l'édition Press Pocket, et qui est tronçonné en deux parties dans le film de Villeneuve. Et dans cette deuxième partie, il y a un passage qui se passe sur Gallipprime avec Phèdre Otta, qui est c'est pas en noir et blanc, c'est en noir et gris. C'est en nuance de gris. Et ça, j'ai trouvé que c'était une idée extrêmement originale. C'est hyper oppressant. C'est un peu comme si on voyait Gladiateur, pas en noir et blanc, mais en gris.
Oui, c'est une scène vraiment très marquante. Je pense que tout le monde en a parlé. Tous ceux qui l'ont vu, alors ça dure pas si longtemps que ça. C'est très fidèle au livre, contrairement. Alors, on va peut-être aussi faire de la comparaison que le Dune de David Lynch de 1984, qui lui a eu que 2 heures alors que de Villeneuve déroule ça sur 5 heures. C'est une scène qui extrapole sur le fait que Phèdre Otta a tué 100 adversaires dans l'arène. Et là, il le montre et c'est extrêmement bien réussi et ça permet aussi d'exposer les personnages, ça permet d'exposer la dame Fenrig, ça permet de d'exposer Phèdre Otta tout simplement et puis son caractère c'est vrai que c'est ultra esthétisant. Les feux d'artifice.
Oui,
c'est alors je laisse les auditeurs découvrir s'ils n'ont pas encore vu le film, mais c'est très étonnant et c'est très réussi, oui, effectivement.
Ah voilà, donc c'est très esthétique. Après, par rapport à l'œuvre de Frank Herbert, je pense que la difficulté de l'œuvre, c'est que c'est très difficile à rendre en film. Parce que dans le livre, il y a extrêmement de sous-entendus. On a l'impression, par exemple, que les personnages qui discutent entre eux, dans le livre, ils sont toujours en train de discuter, tout en sachant que quelqu'un est peut-être en train de les écouter.
Oui.
Et ça, comment rendre ça en visuel, c'est...
Alors il y a un moment, on voit un cône de silence quand on voit la mère révérende qui parle avec le baron Harkonnen, mais c'est vrai que c'est pas expliqué. Je pense que si on n'a pas lu les livres, il manque des clés. Quand on a lu les livres, on arrive à relier les pointillés, quoi. Donc, moi, je peux conseiller que ça. Si vous avez vu le film, vous n'avez pas tout compris, lisez le livre. Alors, évidemment, c'est
lisez les livres.
Alors, le ticket d'entrée peut être un peu petit peu élevé, mais pas forcément tant que ça. C'est vrai que l'univers est foisonnant. Alors, on a l'impression que Denis Villeneuve nous montre un univers incroyable avec beaucoup de choses, mais en fait, il a que effleuré ce que présentent les livres. Rien qu'en termes de vocabulaire, il y a énormément de choses de vocabulaire, on est passé à côté. Et c'est pas forcément grave. Effectivement, même en 5 heures, on peut pas revenir sur ces deux livres-là. Et puis, il faut se rappeler que les livres Dune, qui ont été créés en 67. Ils sont très verbeux finalement. Alors il y a de l'action, mais c'est très vite expédié. C'est beaucoup d'échanges entre les personnages.
Et beaucoup ça, de politique, beaucoup de politique.
Alors on le ressent quand même. Mais ça, c'est effectivement, visuellement, c'est très compliqué à rendre en fait.
Bon, alors évidemment, là, on a quand même la vision du désert, toutes les séquences avec le vert des sables et tout comme ça qui sont même très belles quoi.
Oui, et puis c'est des prises de vue naturelles. Il y a pas trop d'effets spéciaux et ça c'est louable.
Ah si, le vert quand même, je crois.
Ouais, ah bon. Oui, effectivement, mais toutes les scènes où il marche dans le sable, effectivement, c'est super. La danse
est bien faite, elle est jolie. Oui,
c'est très bien vu. Oui. Moi, je trouve que c'est des images que je m'étais pas faites en lisant les livres et je trouve que c'est des belles inventions. Et après, effectivement, moi, ce que je reproche au film, si on peut appeler ça reproche, ça reste un très très bon film et meilleur que le premier, qui est seulement un film d'exposition. Ce que je peux reprocher, c'est finalement les scènes d'action qui sont des scènes extrapolées, avons pas peut-être pas assez loin par rapport à ce qu'on attend. Surtout sur la fin, il y a quand même l'attaque des contrebandiers et des Harkonnen qui est très bien réussie avec la guérilla. Mais la fin, je pense, que ça va très vite. Ce qui m'a beaucoup déçu, c'est le duel entre Fedrota et Paul Atreides. Dans le livre, il y a énormément de choses qui se passent pendant le duel. Là, c'est expédié assez vite. Et David Lynch, dans le film de 84, était beaucoup plus près du livre en fait, hein, sur pas mal de choses, avec la lame empoisonnée, la lame au niveau de la hanche. Enfin, j'explique pas tout, mais et puis il y a Alia, le traitement d'Alia.
Alors ça, oui.
Ça, alors Alia, c'est la petite sœur de Paul, dont
qui est née, en fait, qui est pendant qu'elle était, enfin, en tant que fœtus, elle a subi la transe de l'épice en fait, avec sa mère, et donc ça l'a complètement transformée. Et dans le bouquin, ça devient une personne assez tarée, quoi.
Ouais, et puis qui aura beaucoup de conséquences d'ailleurs par la suite dans les autres livres, hein, qui sont le prophète de Dune, le messie de Dune. Alors je sais plus si c'est les enfants de Dune.
Alia du couteau d'ailleurs.
Alors Alia du couteau, effectivement. Et ce qui apparaît quand même, ce qui est bien fait, c'est qu'on l'entend parler à travers sa mère, donc on comprend ce qu'elle est. La fin est changée. Normalement, Alia est née et a un rôle dans le livre. Là, dans le film, ce n'est pas le cas. C'est un choix. C'est un choix qui est respectable. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu avoir un rôle plus prépondérant. Et d'ailleurs, une fois de plus, dans le film de David Lynch, c'est beaucoup plus proche finalement de la réalité. Enfin, de la réalité c'est beaucoup plus littéral par rapport au livre en fait.
En même temps, quand la révérende mère Gaius Hellenmoyum parle d'abomination. Dans le film, c'est de Paul dont elle part parce que lui balance la voix. Ça, j'ai bien aimé. D'un coup, il la remarque. Alors que dans le livre, l'abomination, c'est Alia.
C'est sa sœur, c'est sa petite sœur qui est une.
Voilà. Une c'est des comparaisons, en fait. Mais voilà. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait pas voir un film comme on lit un livre. Alors tu peux des fois regretter que ça soit complètement différent. Mais à partir du moment où t'as envie de faire une œuvre qui passe par le visuel, c'est évident qu'il faut s'attacher au visuel, quoi. Bon.
Oui, et puis l'histoire a changé aussi sur la relation entre Paul et Shiny, et moi je pense que là, par contre, c'est pour le meilleur. C'est-à-dire que...
C'est assez effacé, je crois, dans le livre Shiny, non ?
Très... Moi, ce qui ressort du livre, de la lecture que j'ai du livre, c'est que finalement les personnages sont assez froids. Paul, Shiny, tout le monde est assez froid. C'est vraiment des gens qui sont très calculateurs, des gens un petit peu... je veux dire, c'est un monde rude, et tout le monde est rude. On a reproché à Denis Villeneuve de ne pas avoir mis d'émotion de ses personnages. Je trouve qu'au contraire, il en a rajouté par rapport à ce que le livre montrait. Donc là, je défends la vision de Villeneuve. Et puis Shiny, elle a un rôle complètement différent parce que c'est vrai que elle apparaît très transparente dans le livre, à part dans son côté guerrier. Tout de suite, elle devient la compagne de Paul, alors que là, non, il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et puis il y a un choix à la fin, c'est pareil. Elle fait un choix. Paul fait un choix à la fin. Elle a fait un autre choix. Dans le livre, c'est absolument pas du tout ça. Elle est très suiveuse d'une certaine manière. Elle accepte les choix de Paul. Et je pense que Denis Villeneuve, il a pris Shiny pour être la conscience ou la mauvaise conscience de Paul. C'est un petit peu le pendant. Il y a quelque chose qui était bien retranscrit finalement. C'est cette montée de l'extrémisme, du fanatisme, du prophétisme que Herbert voulait dénoncer. Parce que c'était quelqu'un qui avait travaillé avec des hommes politiques, qui avait détesté ça. Il avait travaillé avec un sénateur, je sais plus, républicain, sémocrate, dans les années 60. Il avait détesté ça, donc d'où le Bene Gesserit, mais d'où aussi la dénonciation du fanatisme. David Lynch l'avait pas ressorti dans, alors que c'est quand même assez prenant dans le livre. Et je trouve que le film, c'est un voyage du héros vers quelque chose qui n'est pas forcément une évolution positive du héros. Après, ça dépend comment on voit les choses et ce qu'il en fera. Mais j'ai trouvé que c'était même un voyage vers un anti-héros pour moi.
Et puis, il me semble qu'il y a un groupe qui n'est pas très présent, bien qu'il soit indispensable, c'est la guilde.
La guilde, oui,
la
tout
guilde
à fait.
Des voyageurs, enfin, de ceux qui transportent les vaisseaux avec leur vision des routes de l'espace grâce à l'épice. Bon, ils sont là forcément parce qu'il faut bien qu'ils transportent, mais on voit les gros vaisseaux, mais on voit. Et politiquement, ils ont quand même une importance extraordinaire. Ils devraient avoir une.
Je suis complètement d'accord, on ne les voit pas ou quasiment pas, et c'est vrai que c'est pas très compréhensible. Après, dans le livre, ils sont quand même pas à la botte de l'empereur, mais presque, donc peut-être qu'ils aient voulu faire un résumé. Mais voilà, je me demande ce qu'il va faire du troisième film, parce que il nous laisse sur un momentum qui va nous ouvrir quelque chose. Et je me suis dit, voilà, le troisième livre, en fait, qui est le prophète de
Dune. Le Messie
de Dune, pardon, se passe 12 ans après Dune. Et peut-être qu'il va développer cette ellipse, en fait, hein, où il y a les...
Ah, voilà. Ça veut dire qu'il pourrait faire un film qui ne serait pas écrit, en fait.
Oui, voilà, je pense qu'il pourrait faire ça, et il pourrait faire ce qu'il veut, d'ailleurs, par exemple, remettre Shiny dans le jeu, faire ce qu'il veut avec les personnages, tant que ils sont pas forcément morts. Et puis, ça parle de la conquête de la galaxie, quand même, donc il y a énormément de choses à dire, et on pourrait peut-être avoir, un petit peu comme Star Wars, quand même, quelque chose qui peut être développé complètement hors des livres, en fait.
Je sais pas jusqu'où il ira, mais en tout cas, à mon avis, il y a l'Empereur Dieu de Dune, donc qui est le quatrième volume, ça fait partie des romans qui sont absolument impossibles à mettre en film, puisqu'en fait, il s'agit vraiment d'une réflexion philosophique extrêmement puissante.
C'est un huis clos aussi, d'ailleurs, je crois.
Il y a beaucoup d'action quand même, puisque l'Empereur est constamment en péril de mort par la même personne qui revient et qui revient. Mais c'est surtout toutes les réflexions sur je suis un dictateur, mais si je ne le fais pas, l'humanité va disparaître. Enfin, ça, je résume, hein, parce qu'il y a quand même 500 pages derrière. Mais
et, oui.
c'est de faire un film que là-dessus, je veux dire, ça va être extrêmement compliqué.
Si oui, oui, pas, donc c'est
pas de visuel, si t'as pas d'action, si t'as de la réflexion intime. Alors, pour le Messie, c'est pareil, c'est un petit peu intimiste aussi, hein.
Oui, c'est pour ça, je pense que le 3ème sera le dernier, il s'arrêtera à ça. Et comme c'est finalement des films hollywoodiens, il faut de l'action, il faut qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il va aller vers ce genre de...
Et tu m'as dit tout à l'heure, hors antenne, que t'avais une anecdote à nous livrer.
Ah oui, j'ai failli oublier. Il y a un petit truc rigolo, alors c'est vraiment dans le film, c'est un moment, c'est Dan Fanning qui est représenté par Léa Seydoux, donc je sais même pas en fait en voyant le film qu'elle était là. Et Léa Seydoux en fait a fait partie d'une grande famille de gens du cinéma, et son grand-oncle Marcel Seydoux était le producteur qui avait les droits de Dune.
Ah, oui.
Et qui devait être avec Jodorowsky.
Jodorowsky, voilà. Oui.
Donc, je me suis demandé si c'était hasard ou pas. J'ai trouvé ça très drôle parce que quand je l'ai vu, mais oui, voilà. Effectivement, donc il y a une sorte de boucle qui bouclait dans la vraie vie, quoi.
On le voit probablement alors dans le documentaire d'une Jodorowsky.
Alors, j'ai pas de souvenir. Je l'ai encore vu sur Marcel Seydoux, sans doute. Ouais. Alors, par contre, j'ai pas de souvenir de comment il avait eu les droits. Parce qu'en fait, il avait récupéré les droits qui avaient été achetés et puis qui n'avaient pas été exploités à la fin des années 60. Il les a récupérés en 70. J'ai pas l'histoire. Mais voilà, ils ont travaillé là-dessus. Donc.
Et ça me fait penser d'ailleurs que dans le film de Villeneuve, il y a quand même beaucoup de références visuelles à des artistes qui ont travaillé pour Jodorowsky. Quand tu vois Gedi Prime, ça fait penser un peu à Giger, quoi. Quand tu vois les vaisseaux, c'est du Chris Foss. Enfin, il y a des choses comme ça, quoi.
Et puis même directement au film de David Lynch, il y a des scènes qui sont assez semblables, qui sont même quasiment plan à plan les mêmes. Et je pense que c'est un hommage, hein. C'est pas du tout un pompage c'est tout à fait volontaire de la part de Denis Villeneuve. Je sais pas ce qu'il en a dit, David Lynch, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il a pensé.
Par contre, je sais ce que Jodorowsky a dit sur le film de David Lynch.
Oui, à qui qu'il avait détesté, ouais.
Mais même David Lynch n'aime pas trop le sien, je crois, hein.
Alors, Il a un rapport très compliqué parce qu'il n'avait pas eu le temps de faire la post-prod, etc. Donc, il n'a pas pu faire le film qu'il voulait faire. Donc, à la fin, il ne voulait pas qu'il y ait son nom qui soit affiché.
Mais quand même.
Manque de bol, son nom apparaît partout dans le générique. Donc, il ne peut pas le renier. Il aurait voulu le renier, il aurait voulu que ce soit oublié. Mais c'est un film à culte et imparfait, enfin très imparfait. Peut-être pas forcément regardable. Moi, j'ai un très bon souvenir de ce film.
Moi, ça m'a donné envie de relire. J'avais lu que le premier à l'époque. Et quand j'ai vu le film de Lynch, ça m'a donné envie de relire le bouquin, et du coup, j'ai continué la série jusqu'à la fin.
Et je confirme, le Dune de Jodorowsky est visible sur Arte Live Web. Allez-y.
Allez-y, les yeux fermés.
Que j'ai pas le, adoré. Tu veux dire, le reportage sur le documentaire sur, avec tous, les, tous les personnages qui vous. Il avait un scénario de, je sais pas, 500 pages.
Oui, c'est fou, c'est la base de Alien, de Star Wars, c'est tous ces gens-là qui ont été influencés.
Blade Runner.
C'est incroyable, Blade Runner. Alors, oui, parce qu'en fait, c'était un ancien qui a travaillé sur Blade Runner. C'est le meilleur film qui n'a jamais été filmé. Voilà.
C'est bien
avec du Dali dedans, avec du Dali dedans qui aurait dû jouer l'empereur.
Dali et puis attends, il y a
le comédien le plus
Mick Jagger qui aurait dû faire Drota.
Et les Pink Floyd aussi, je crois.
Les Pink Floyd qui voulaient.
Il s'appelle un autre acteur.
Et on a eu Toto.
Est-ce que vous avez d'autres adaptations de Dune à nous conseiller?
Un conseil, je sais pas, mais c'est qu'il y a une série télé
dessinée.
J'ai pas vu la série télé. Elle est disponible sur Amazon Prime, semble-t-il.
Il semble qu'il y en a eu deux là.
Je parle des années 2000 de Canal Plus.
Une avant avec qui allait jusqu'aux enfants de Dune d'ailleurs, mais je dois l'avoir chez moi, mais je l'ai pas revu.
Bon,
je regarde. Prochaine fois, je vous en parlerai.
Et puis moi, je vous invite aussi à lire le MOOC Dune qui avait été fait par Lloyd Sherry aux éditions La Talente, qui est sorti il y a 3-4 ans, je crois.
Ouais.
En tout cas, pendant le Covid. Si vous arrivez à décrocher, c'est hyper hyper dense. Ça a été fait avant les films. Le 1 a sorti un numéro spécial Dune il y a très récemment, il y a 2 semaines. C'est pareil, si vous pouvez vous le procurer, c'est génial. Le 1, vous savez, c'est le journal qui se déplie en une feuille immense. C'est très connu. Là on est dans la hype Dune. Là on n'a pas parlé de la musique qui est Hans Zimmer, qui est excellente, surtout sur les volets. Avec qui est pas du tout symphonique.
Alors, la musique de Hans Zimmer d'ailleurs, je crois que c'est en mai au Palais des Congrès. Là.
Ah oui, d'accord. Très bien.
Et dernière chose, je vous invite à écouter le podcast Ce n'est pas de la SF de Lloyd Sherry, justement. Donc vous tapez podcast Ce n'est pas de la SF. Il y a plusieurs spéciaux Dune, enfin je sais pas comment dire, et dont un justement où ils invitent une personne, un Français qui a travaillé sur la musique en créant des instruments. C'est passionnant.
Et puis si vous voulez garder l'univers, vous jouez au jeu Dune, un jeu de plateau absolument extraordinaire.
Alors, et le futur jeu vidéo qui va venir. Il est le futur jeu vidéo.
Enchaînement, Romuald, parce que moi j'allais vous passer un extrait de la BO du jeu vidéo, mais Dune 2 en 1991. Est-ce que tu as joué à ça?
J'ai dû jouer, je ne sais plus si c'est le seul 1 ou le 2, mais j'ai joué, oui.
Bon, c'était Stéphane Pic qui avait fait cette BO, et on peut la retrouver sur sa page Bandcamp d'ailleurs. Donc on parlera jeux vidéo dans quelques minutes, puisqu'on va vous parler de Langer Geek Fest. Merci messieurs. We'll be right back. BO du jeu vidéo Dune 2, sous-titré The Building of a Dynasty, qui était sorti en 1992, ça s'entend, hein. Mais bon, on va parler des années 90, parce que c'est le thème de l'Angers Geek Fest. Donc le compositeur, je rappelle, c'était Stéphane Pic, je sais pas si c'était un jeu français, P-I-C-Q. On peut retrouver ça sur sa page Bandcamp, donc, et bon. Le jeu est aussi disponible sur abandonware.org, qui nous explique que c'était le premier wargame en temps réel. Karine. L'Angers Geek Fest, donc.
Alors,
on fera gagner deux places dans quelques minutes. Je vous ferai un petit blind test après qu'on en ait parlé.
Alors, on va avoir deux tables rondes dont tu modères une.
Alors, il y aura beaucoup de tables rondes à l'Angers Geek Fest. Enfin, beaucoup de conférences, en fait.
Oui.
Allez, là, tu nous parles de imaginaire à l'Angers Geek Fest.
Ah ben justement, j'allais en parler.
On organise
deux tables rondes. C'est pas à l'Angers Geek Fest, les autres.
Ah oui, tu vas aussi nous parler des tables rondes qu'on fait. Effectivement, on est dans un cycle en ce moment sur l'intelligence artificielle.
Donc les 6 et 7 avril,
ouais.
Dans le cadre de l'Angers Geek Fest,
toujours au Paris
on
Expo.
Va avoir une table ronde le samedi 6 que tu modères de 15h à 16h de l'horreur à l'urban fantasy.
Sur la figure du vampire, en fait. Je sais pas si on l'a déjà dit. Mais voilà, les années 90, on s'est dit qu'est-ce que ça nous évoque d'un côté dans la fantasy. Donc moi, j'ai pensé plutôt à l'urban fantasy. Et puis, dans la science-fiction, finalement,
et
on parlera de... qui à cette table ronde. Alors, Céline Grégu, qu'on avait déjà... qu'on a rencontré, en fait, lors d'une table ronde, ben justement, c'était un peu sur la figure du vampire, à l'université d'Angers, qui fait sa thèse sur ce sujet. Et puis
sur la figure du mal, je crois.
Ouais. Et puis Louise Lebar, qui a écrit deux romans vampiriques pour ses éditions Noir d'Absinthe. Et puis Clément Houellier, j'ai toujours pas lu son livre. Il est temps que je me dépêche.
Auteur de chez Critique.
Ouais, tout à fait.
Et ensuite.
Ouais. Alors déjà, moi, en fait, j'ai vu en plus que le lendemain, il y a comment il s'appelle. Ah bon. Enfin bon, deux youtubeurs assez célèbres qui parlent de culture geek et d'histoire qui font aussi une table ronde sur le vampire le lendemain matin. Ce sera sur les armes des vampires dans les années 90. Donc c'est
le
très
pieux.
Pointu. Bah pas que. Il y a aussi Blade. Hein.
Oui, c'est vrai, il y a eu Blade ça, effectivement. Avec Wesley Snipes.
Tout à fait.
Et donc le dimanche 7 avril de 15h à 16h toujours et avec en modérateur Pierre-Marie, on aura une table ronde l'intelligence artificielle, un rêve devenu réalité avec Audrey Plenet, autrice de chez Le Bélial.
Dont on a écouté l'interview dans l'émission précédente.
Tout à fait. Et Florestan Demour, un auteur de chez Critique, si je ne me trompe pas.
En espérant que tu ne te trompes pas.
Non, mais je crois que c'est ça.
Et puis, il y aura Imaginaire aura un stand comme tous les ans. Hein, donc, on retrouvera les écrivains dont on vient de vous parler, voilà. Qui seront en dédicace au moins une journée. Et puis, comme c'est un festival aussi où on parle comics, bande dessinée, on aura sur notre stand Guillaume Albin, dessinateur de Nahuel Buck. Ça tombe bien, parce que John Lang, c'est un des invités d'honneur de l'Angers Geek Fest. Donc, le créateur, en fait, de toute la dynastie Nahuel Buck. Et puis, on aura aussi Tony Emerio et Boris Beuzelin, qui sont toujours en train de nous sortir des tomes de Paria, qui est, à ma connaissance, toujours le seul comics de super-héros fait dans le 49. En BD, tu disais qu'il y aurait aussi une expo Dragon Ball. Parce que je me suis dit, tiens...
Oui, tout à fait. Et ben, la programmation de l'Angers Geek Fest, c'est toujours assez complète avec des jeux vidéo, des conférences, du cosplay, des concerts, des expos, des animations. Et notamment, là, on va avoir visiblement une exposition Dragon Ball. Donc de Doc, un vidéaste que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui, pour les 40 ans de la licence Dragon Ball, va mettre en place une petite exposition d'une partie en fait de son musée manga.
Ah oui, d'accord, ok, super.
Dragon Ball, voilà, il s'est passé quelque chose sur Dragon Ball.
C'est pour
très
ça
récemment.
Que, ouais, oui. On en parle.
Mais je pense
créateur
que c'est un
décédé.
Honneur aussi
à
son créateur.
Voilà. Sinon,
Akira Toriyama qui est décédé il y a deux semaines.
Ouais, quelque chose comme ça.
À l'âge de 68 ans, il me semble.
Oui.
Ah, c'est assez jeune, quoi.
Donc, on avait aussi des tables rondes, nous, imaginaires, à annoncer.
En effet.
Sur le thème de l'intelligence artificielle.
Et là, c'est bien avant, j'ai Geekfest. Ouais. Alors, la première étant mardi 26 mars, de 18h à 20h à l'Université catholique de l'Ouest. Donc, une heure de table ronde et des échanges. Donc, c'est sur l'IA, ChatGPT et les nouveaux usages professionnels. Et il y aura comme intervenant, trois intervenants, dont un auteur, donc Olivier Paquet. Et lors de cette soirée, on aura aussi des passes AG1 de l'Angers Geek Fest à gagner. Et le modérateur est Romuald.
Oui, effectivement, il y aura peut-être quatre personnes d'ailleurs, on verra. Il y aura peut-être une autre universitaire qui sera invitée. Ça, on attend un retour.
Ok.
Et par la suite... Donc le mardi 16 avril, toujours de 18h à 20h, à l'université d'Angers, le campus de Saint-Serge, ce sera l'IA par l'approche éthique et juridique. Puis le mardi 30 avril, toujours même horaire, mais à l'université d'Angers, toujours mes campus Belbeil, quand l'IA parle entre linguistique et mimétisme. Donc ces tables rondes sont ouvertes principalement aux étudiants, elles sont à destination des étudiants en premier lieu, mais cependant ouvertes à tous et à toutes, et c'est complètement gratuit, il y aura une captation sonore visiblement après coup.
Et superbe. Et si on a une mauvaise mémoire et qu'on n'a pas envie de réécouter le podcast, est-ce qu'on peut retrouver ces informations-là quelque part ?
Eh ben, il y aura une communication.
D'accord.
Pour nous suivre.
Super.
Sur nos réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux imaginaires.
Bon, c'est l'heure où on fait gagner des places pour l'Angers Geek Fest, alors.
Oui.
Avant d'écouter l'interview de Florian Soulas dans quelques minutes sur le 101.5, l'Angers Geek Fest, c'est une grande scène où il y a aussi des concerts. Et cette année, il y aura le concert de Kickban. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un groupe de punk rock nantais, mais qui font des reprises de chansons de la culture geek, on va dire. Et donc, je vais vous faire un petit blind test. Là, je vais vous passer une reprise d'une chanson qu'on entend dans un film d'animation des années 90. Hein, je respecte la thématique. Et je vais vous demander, ça va peut-être être un petit peu difficile, hein, de nous donner le nom du réalisateur de ce film d'animation qui était sorti en 1993 et dont on s'écoute tout de suite donc un morceau de la BO, mais cette fois repris par les Nantais. De Kickban hein, qu'on retrouvera à l'Angers Geek Fest. C'est parti, à tout de suite sur le chat de Radio G.
C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les geeks rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes, présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes ? Non ? Alors suivez-moi. Voici l'entrée secrète.
Voulez-vous voir un monde étrange où l'on aime les démons mais pas les anges? Suivez-nous, venez visiter notre magnifique cité. Voici Halloween, voici Halloween. Les citrouilles vont mourir de folie. C'est ça Halloween. Tout le monde a mauvais fric, c'est normal. C'est pour terroriser les tripots et les mystères. C'est la vie. Bienvenue à Halloween.
Moi je me cache sous votre lit le soir. Mes dents, mes yeux brillent dans le noir.
Moi je me cache sous vos escaliers.
Toi de serpent et cheveux d'araignée.
C'est ça Halloween, c'est ça Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Des bêtises.
On sait pas quelle sera la prochaine surprise.
Au coin de la rue, il y a des inconnus qui surgissent de tout même pour vous faire peur.
C'est ça Halloween,
rougez-moi,
j'ai la vie,
quelle horreur.
C'est un enfer, par le feu, par la glace, nos jurés à pile aux fesses et s'envoler à tombeau ouvert.
C'est la vie du crime, c'est la vie du crime.
Bienvenue à Halloween.
Je me perds la tête, quelquefois je l'arrache.
Ou avant que tu disparaisses dans un flash.
Je suis le mort qui prend mort.
Moi je me glisse comme une ombre noire
et je transforme vos rêves en cauchemars.
C'est ça Halloween, c'est ça Halloween.
entre nous, vous ne ferez pas de vieux os.
C'est la nuit du crime.
Bienvenue à l'épouvantable épouvantail.
Bravo Jack, t'es un ravi, notre nouveau roi.
Jack Jacquard,
courir le roi des citrouilles.
C'est ça Halloween, c'est ça Halloween.
Halloween, 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 Halloween.
C'est la ville de la nuit. Les citrouilles chantent et les chauves-souris. C'est la ville de la nuit. Les citrouilles chantent et les chauves-souris.
La, 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 la.
Et ouais, pas facile mon blind test, hein. Personne n'a trouvé.
On refait quoi, Romain ?
Eh ben, on va faire gagner les places sur les réseaux sociaux d'Imaginaire, donc suivez-nous. Ce n'est
sur
pas perdu.
Facebook,
bon, il y
en
a quand même parmi les gens qui sont là qui ont trouvé ce que c'était que ce film d'animation de 1993 dont on vient d'écouter
oui,
une reprise.
On n'a pas trouvé quand même la réponse à ta question.
Ouais, tout le monde dit Tim Burton pour l'étrange Noël de Monsieur Jack et en fait, pas du tout. C'est Henry Selick. Tim Burton, effectivement, était à l'origine du projet. Il avait dessiné des croquis, à peu près écrit l'histoire. Et en fait, il a fallu qu'il réalise Batman 2. Donc, il est parti ailleurs.
Qui n'a pas été très aimé, d'ailleurs, son esthétique, Batman 2.
Ouais, bon, je sais pas. En tout cas, voilà, Henry Selick a aussi réalisé James et la pêche géante. Mais bon, apparemment, c'était un petit peu trop compliqué, tout ça. Bon, allez.
Alors, comment on va faire maintenant ?
Eh ben, on suit Imaginaire sur les réseaux sociaux. Hein. Les places ne sont pas perdues.
Un petit message. Je participe, un message privé, en mentionnant que vous participez. Et puis, vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter.
Ok.
Voilà, voilà.
Bon, allez, on passe à l'interview de Floriane Soulas que nous avions réalisée. C'était Pierre-Marie, oui. Une fois de plus, aux Utopiales, en novembre dernier. C'est parti.
Toujours aux Utopiales 2023, l'association Imaginaire est ravie de retrouver une fois de plus Floriane Soulas. Tu nous avais manqué. Oh. Floriane, mais qui es-tu, Floriane ? Enfin, c'est très simple déjà, tu es docteur scientifique et tu pourras expliquer exactement quel est l'objet de ton travail et de ta thèse parce que c'est trop compliqué pour moi. Mais surtout, moi ce que je retiens, c'est que tu es d'abord autrice de fantastique et surtout de science-fiction depuis peu. Repérée en 2018 par le prix Imaginal pour ton premier roman, Rouille, tu as transformé cet essai, la littérature de l'imaginaire donc, pour ton titre Les Oubliés de Lama, primé par le prix Utopial l'année dernière. Et là, tu reviens un an après, alors même que ton précédent roman était précédé d'une énorme pause, par un autre titre, toujours de science-fiction. Pourquoi la science-fiction, alors toi-même, tu t'épanouissais dans le fantastique ?
Eh bien, en fait, j'ai réalisé récemment, c'est-à-dire dans les dernières années, que je m'étais interdit d'écrire de la science-fiction pendant longtemps. Et en fait, si tu lis bien Rouille, tu te rends compte que des personnages comme Jules, qui sont en fait des espèces de mécanos un peu, c'était déjà une manière pour moi de... Et en fait, je me rappelle que pendant longtemps, je disais « Ah mais oui, mais Jules, c'est un peu mon cri d'amour à la SF. » Enfin, en tout cas, à ce côté scientifique et un peu technique que j'avais, mais que j'assumais pas. Et j'ai découvert en fait que je m'étais interdit d'écrire de la SF quand j'ai commencé à écrire des nouvelles. Où il y avait beaucoup moins de contraintes, où c'était un peu plus confidentiel et où je pouvais un peu plus me laisser aller, quoi. Et où naturellement, les histoires que j'avais voulu raconter, c'était vraiment de la SF pure et dure ou de l'anticipation, des choses comme ça, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça, la voie, tu vois, le chemin.
This is the way.
Voilà, donc il faut y aller, quoi. Et du coup, et puis c'était aussi une manière de faire le lien entre mon métier que j'aime. Et mon autre métier entre guillemets d'autrice quoi et de faire un tout et notamment parce que Les Oubliés de la main parlent de ma thèse.
Alors justement, parle-nous un peu de ta thèse et comment tu fais le lien entre ton métier de tous les jours parce que c'est un métier extrêmement prenant qui t'emmène par-delà les frontières et la science-fiction.
Et ben du coup j'écris sur les choses que je connais donc j'écris de la science. J'essaye. En tout cas c'est vrai que pendant un moment ça a été assez compliqué de. En fait j'avais vraiment deux vies très séparées et quand je me suis mis à écrire de la science-fiction je me suis dit mais en fait je me suis rendu compte de à quel point ma vie de scientifique dans mon travail de tous les jours en fait nourrissait mon écriture, que ce soit dans les gens que je rencontre ou dans la manière d'aborder certains sujets ou de parler directement de technologie ou de comment la technologie nous impacte. Et notamment je pense à une nouvelle que j'ai écrite pour une anthologie, mais alors je ne rappelle plus laquelle, je comprends si c'est pas une anthologie des Imaginales, qui parle de grossesse par exemple. Mais en fait, il y a tout un truc technique autour avec les IA et la science, et en fait comment on est dans un monde où les gens ne font plus de bébés naturellement, et on suit une femme qui est archéobiologiste et elle essaye de recréer une grossesse naturelle. Et en fait je me dis, mais c'est marrant parce qu'en fait c'est sûr que la grossesse maintenant c'est pas la même grossesse qu'on avait il y a 100 ans, enfin, tu vois, tout est médicalisé, tout est vraiment contrôlé et tout, et en fait ça c'est des choses qu'on retrouve, cette espèce de contrôle de la technologie dans tous les domaines, et notamment en sciences entre guillemets dures comme moi je fais en physique et en plein d'autres choses quoi. Et en fait je me suis rendu compte que tu vois, même quand je veux parler de grossesse, j'ai oublié de mettre de la technologie là-dedans, parce que ça me paraît normal quoi. Et en fait le point culminant un peu de ça, ben, c'est les oubliés de la mort, où je m'étale sur mon sujet préféré, ma thèse, voilà. Vraiment, genre 100% de la science de ce roman est basée sur ma bibliographie de thèse sur les foudroiements d'avions, et c'était trop le kiff. J'ai trop kiffé faire ça, c'était trop bien.
Mais alors là, par contre, il y a aussi une cassure, même si donc la cassure s'est faite en 2021-2022 avec les oubliés de la mare et ton entrée fracassante dans la science-fiction. Là, il y a une cassure entre ton roman Les oubliés de la mare 2022 et 2023 Tonnerre après. Après la ruine, exactement. Parce que Les oubliés de la mare, c'est de la SF, oui, mais pas que, c'est du space opéra surtout. Ouais. Alors que là, on est sur du post-apocalypse, c'est la fin de l'espoir.
Alors moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord, mais je pense que les gens vont commencer à en avoir marre de ce que je dis, parce que je commence à le dire beaucoup. Et en fait, moi, je pense vraiment, et j'en suis fondamentalement, genre vraiment profondément sûr, c'est que le post-apo, c'est le genre de l'espoir. Genre, par sa définition même, parce qu'en fait, c'est le genre où on te dit, il n'y a rien qui va, c'est la merde partout. Vraiment, genre, on ne peut pas être plus bas que là où on est. Mais en fait, on va quand même te montrer que les gens peuvent faire des choses pour les gens. On va quand même te montrer des communautés qui s'aident. On va quand même te montrer des gens qui vont faire des choses par pur altruisme sans rien attendre en retour. Alors, effectivement, il y aura toujours des connards partout. Et on ne peut pas dépendre d'une humanité qui soit dépourvue de gens pas sympas. Mais en fait, je trouve qu'enfin, tu vas toujours, dans toute la littérature de post-apo, même dans la route, tu retrouves des gens qui font des trucs hyper genre innocents. Juste parce qu'en fait, on est humain et que c'est humain de céder. Mmh. Et du coup, pour moi, en fait, je trouve que la post-apo a très mauvaise presse. Parce que c'est sûr que c'est pas très drôle de dire « Ah ben regarde, c'est ça qui t'attend. Un monde hyper noir où t'as plus de technologie, t'as plus de contact, t'as plus rien à bouffer. » Mais en fait, c'est montrer que même dans les situations les pires, on est capable de faire le bien et de faire des trucs cool et de faire de l'entraide, ou vraiment de créer du lien social fort et dépourvu de considérations économiques ou politiques. Enfin, en fait, on est capable, c'est en nous. Mmh. Et c'est aussi ma façon de dire que personnellement je pense que notre avenir ne passera pas par une société genre galactique, enfin un truc tentaculaire où on est beaucoup, et que je pense que la solution elle est dans les sociétés plus restreintes et les communautés plus petites, et en fait c'est essayer de mettre en lumière ces trucs là quoi. Bon, après Tonnerre il se passe vraiment que des trucs horribles, mais il y a d'espoir à la fin, et du coup je pense que c'est important de le rappeler, que même comme l'a dit Dumbledore, même dans le noir il y a toujours une petite lumière, tu vois.
Merci Dumbledore. Je pensais pas qu'on aborderait Harry Potter dedans. Je me permets de pointer une contradiction dans ce que tu viens de dire et dans ce que tu écris, et notamment ce roman-là de post-apo, où tu dis que même dans la pire des situations, nous sommes toujours humains, nous sommes capables de faire des choses. Aux dernières nouvelles, contredis-moi, dans ton roman, les pires connards, ce sont les humains, et ce sont ceux qui ne sont plus tout à fait humains, qui sont les plus altruistes et bénéfiques. Est-ce que finalement, être humain n'est pas forcément la perte de l'humanité ?
Mais en fait, c'est toute la question du roman, c'est de définir qu'est-ce qui définit être un humain. Et donc en fait, dans Tonnerre après les ruines, on suit à la fois des humains purs, enfin, en tout cas, qui essayent de garder ce qu'ils espèrent, une pureté génétique, quoi. Et des gens qui, parce qu'ils ont subi des hivers nucléaires, enfin, plein de choses, en fait, se sont mis à muter. Et qui sont considérés, du coup, comme des monstres parce qu'ils sont difformes, quoi. Mais en fait, c'est toute la question, en fait, que se pose Ferrel. C'est est-ce qu'on est monstre ou est-ce qu'on le devient ? Et qu'est-ce qui définit le fait qu'on est humain ou qu'on est un monstre ? Et bien, ça, la réponse, elle est dans le roman. Enfin, ma réponse est dans le roman.
Tu reviens sur les petites communautés, et d'ailleurs ça se voit dans la différence entre ces deux romans, Les Oubliés de la Main, où on était vraiment dans la conquête du système solaire à minima, avec pas mal d'entités différentes, et là on n'a que des villes, ou en tout cas des espaces civilisationnels réduits. Est-ce que c'est pas un retour un peu à l'anarchie, où en fait le seul moment où tu pourras avoir une société saine, c'est à partir du moment où tu n'as plus d'enjeux de corporation ou...
C'est une bonne question. Après, pour revenir aux Oubliés de la Main, en fait, il y a déjà ce truc-là dedans. Parce que si tu vois la main, en fait, il est décrit comme une zone de non-lieu où justement les lois du reste du système ne s'appliquent pas là. Mais en fait, inconsciemment, les habitants de la main reconstruisent leurs propres lois et leur manière de fonctionner. Donc en fait, moi je suis hyper intéressée par tout ce qui est le monde dans le monde, la ville dans la ville, le cercle dans le cercle comme ça. Où en fait, je pense que tu sais, à chaque fois, c'est comme des poupées russes. T'as toujours un degré en dessous et tu peux toujours rentrer comme ça dans, tu vois, c'est comme la famille qui s'inscrit dans la ville, dans le machin, tu vois, il y a plein de, ça s'enchaîne comme ça. Et après, sans promouvoir l'anarchie, encore que on n'a jamais vraiment essayé, donc peut-être que ça marcherait, je pense, ouais, que il y a une volonté de montrer en tout cas d'autres manières de fonctionner, de dire en fait, on est tellement habitué à ce fonctionnement de où on est connecté tout le temps, ou tu vois, du progrès pour le progrès. En fait, qu'est-ce qui se passerait si on revenait à d'autres choses, et qu'est-ce qui se passerait si on poussait cette thématique du progrès pour le progrès vraiment au bout du bout du bout du bout, quoi.
Et ça, tu le retrouves dans ton roman, donc Tonnerre après la ruine, où en fait le bout du bout du progrès, c'est la perversion de la recherche.
C'est la question de l'éthique. Ouais. Mais ça a été aussi une question qu'on abordait dans Rouille.
Ouais.
D'une certaine manière, tu vois, jusqu'où en fait, mais qui du coup en fait prend deux prismes. Je peux pas trop spoiler parce que sinon, mais en fait de dire jusqu'où on est prêt à aller pour montrer que scientifiquement on peut faire quelque chose, quoi. Et ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, il y a plein de choses qu'on essaye de faire qui sont sujets à des questionnements éthiques. Jusqu'où on est prêt à aller, où est-ce qu'on met le curseur, et tu verras que dans Tonnerre, tu as un personnage qui, elle, décide en fait que tous les moyens sont bons pour prouver qu'elle peut faire.
D'une certaine manière, c'est aussi ce qu'on retrouve dans Les Oubliés de Lama, avec tout ce qui est les IA, les choses comme ça.
Sauf que là, dans Les Oubliés de Lama, ils ont dit stop. Ils ont dit ça, non. Genre trop dangereux, éthiquement pas viable, tu vois. Mais en fait, tu peux pas empêcher les gens de faire. D'une certaine manière. Si t'as suffisamment d'argent, il faut.
Oui.
Parce que il y a une espèce d'ego trip de prouver que t'es capable chez l'humain, tu vois. Genre par exemple, j'ai vu Oppenheimer, tu vois. Et en fait, je suis désolée, c'est un méga ego trip.
Oui.
C'est un méga ego trip, ce gars-là, mais en même temps, il était hyper intelligent. Et surtout, il avait l'intelligence de savoir s'entourer et se subordonner des gens plus intelligents que lui dans leur domaine respectif. Ça tient du génie, déjà. Et en fait, à la fin, il savait que c'était pas bien. Mais il voulait quand même prouver que scientifiquement, ils étaient capables. Mais en fait, il savait très bien ce qu'ils allaient faire avec ce truc-là. Il l'a fait quand même. Et après, il s'est dit, ah ouais, en fait, on a déconné. Mais il le savait très bien dès le début. Mais ils peuvent pas s'en empêcher. Ego trip.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va passer à ma partie préférée, à savoir le portrait chinois. Est-ce que tu es prête?
Vas-y.
Aux dernières nouvelles, tu es quelqu'un qui adore la pop culture et le monde vidéoludique. Demain, c'est la fin du monde, il ne reste plus qu'un seul jeu.
Ah non, The Witcher 3.
The Witcher 3. C'est vraiment son... Oui. Mais alors pourquoi?
Parce que trop beau.
Mais oui, mais Henri Cavill, il n'y est pas.
Non, mais alors j'aime pas trop Henri Cavill, en fait. En fait, c'est marrant parce que j'adore la personne, genre, en tant qu'être humain, je le trouve incroyable, il est genre trop pur, vraiment, mais je trouve qu'il joue pas bien. Et vraiment, et à la fin, tu vois, quand j'ai vu la première saison du Witcher, qui est la meilleure, je trouve, j'ai pas aimé le voir jouer dedans, mais je l'ai entendu prendre position sur pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il avait fait dans le Witcher, tu vois, toutes ces prises de position qu'il avait sur la série, j'ai dit, mais en fait, ce mec est incroyable. Genre, je voudrais qu'on soit copains et qu'on joue à Warhammer ensemble, tu vois. Par contre, je trouve pas qu'il joue très bien en tant que Witcher, tu vois. Mais bon, ouais, le Witcher 3, trop bon.
Tu as un auteur ou un ayant droit qui te propose d'écrire une suite à un de ses romans ou à une série. De quoi est-ce que tu voudrais faire partie? Une suite ou une réponse, d'ailleurs?
Une suite ou une réponse, j'aimerais beaucoup écrire, si j'avais la chance, j'aimerais bien reprendre la fin de Pierre Bouton, des âmes vagabondes.
Ok, une raison, là?
Est-ce que c'est mon auteur préféré, c'est à cause de lui que je veux écrire, et que genre, ça m'a brisé, enfin, ouais, sa mort m'a brisé le cœur, et quand j'ai lu ce bouquin-là, qui est paru à Tesco Posthume, en plus, genre, j'ai vu tous les liens qu'il avait fait entre toutes les séries, je me suis dit, mon Dieu, mais... on dira jamais ça, quoi. Et en même temps, je me verrais pas, enfin, je pense pas qu'on pourrait écrire comme lui. Mais ouais, ça serait trop cool.
On reste sur la pop culture. L'association Imaginaire, comme tu nous connais, est extrêmement riche et compétente. Et on peut avoir un objet de la pop culture pour toi. Choisis celui qui te ferait plaisir.
N'importe quoi.
Oui.
Ah, le bâton de Gandalf. Bon, mais parce que Gandalf, il est trop cool.
Oui, mais c'est pas toi, Gandalf.
Mais, peut-être.
T'as juste...
On nous a jamais vu dans la même pièce.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas, parce que j'aime trop Gandalf.
D'accord, juste son bâton.
Ouais, juste son bâton. Okay. Bah, il est trop cool, son bâton. T'as de la magie, toi, mec.
Alors, Gandalf le blanc ou Gandalf
le
gris?
Non, le gris.
Ah, on est d'accord.
Oui.
Eh bien, cette interview touche à sa fin et il ne manque plus que la touche finale, la musique.
Alors, ma chanson préférée de tous les temps, c'est Riverside d'Agnès Sobel. Et je vous conseille tous les albums d'Agnès Sobel parce que c'est du pur génie et c'est magnifique et c'est incroyable. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
By the river, by the boat, everybody goes to be alone. Where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the trees. Look at the stones on the river bed. I can tell from your eyes, you never been by the riverside. Down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says. Swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh, I see how everything is torn in the river deep. I don't know why I go the way down by the riverside. Little river runs past your eyes to wash all the dirt on the riverside. Go to the water so very near, the river will be your eyes and ears. I walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone. Tilt to the marrow in them bones. Why do I go here all alone? Oh my God, I see how everything is torn in the river deep. I don't know why I go.
c'était une version live parce que donc de Riverside, le tube d'Agnès Obel en 2019. Bess nous l'avait déjà choisi dans cette émission à l'époque où elle faisait partie de cette équipe. Donc je me suis dit, tu en vas prendre une version un petit peu
bonjour à elle.
Différente. Ouais, bah, si tu nous écoutes, est-ce que tu connais Henri Selick? Apparemment, personne ne connaissait ce monsieur.
Il n'y a que toi, en fait.
Ouais. Bah, oui. On va conclure cette émission. On rend l'antenne dans 2 minutes. On vous refera une émission spéciale Angers Geek Fest dans 2 semaines. On aura 2 nouvelles places à gagner. Tout n'est pas perdu. On se fait un petit agenda là. Je voulais mentionner que samedi prochain, déjà, on a le copain Sébastien des Voix du Scénarium, l'émission de jeux de rôle sur Radio G, qui fait jouer le jeu de rôle Wallowide à la bibliothèque de Belbeil. C'est une fois par mois, je sais plus, ça s'appelle Rendez-vous dont vous êtes le héros, quelque chose comme ça. L'occasion de découvrir 2 jeux de rôle qui sont présentés à chaque fois.
Donc samedi 23, à quelle heure?
C'est samedi prochain, les parties ont lieu de 14h jusqu'à 17h30 éventuellement, qui est l'heure de fermeture de la bibliothèque. Si vous ne faites pas dézinguer avant, parce que Wallowide, c'est un jeu de rôle qui se passe dans un état américain, enfin dans un comté fictionnel, mais qui est très inspiré par, je ne sais pas si vous connaissez, les romans dont j'ai oublié d'ailleurs le nom de l'auteur, c'est un américain, c'est chez Gallmeister. Donc c'est un peu du polar des grands espaces et ça, c'est un shérif, son héros qui s'appelle Walt Longmire. Il a droit à sa série télé, ça vous dit rien? Bon.
C'est pas Peter
May? Encore un peu de niche.
Non, Peter May, non, je le vois plutôt du côté de l'Écosse.
Oui, Peter May, c'est l'Écosse, ouais. Oui.
Non, là, on est vraiment les grands espaces américains, avec réserve indienne à côté, chasseurs de bisons, etc., okay. Etc. Samedi soir, enfin, c'est 17h à 23h, au Musée des Beaux-Arts, il y aura aussi, une soirée jeu, et notamment, il y aura du jeu de rôle qui est assuré par les Conjurés du Temporel. Et sinon, Karine, il te reste, ben, non, on n'a plus le temps. Donc, rendez-vous dans 2 semaines, et suivez l'agenda d'Imaginaire sur les réseaux. Voilà. Salut!
Salut!
Salut, salut!
101.5 FM.